Alors nous entrons aujourd'hui dans une série, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, que notre union d'église, l'Union des églises évangéliques libres de France, propose. Et c'est à la suite du dernier synode national qu'on a eu en mai 2025. Et le thème était l'Église dans le projet de Dieu pour le monde, deux points, le vivre en union. Alors je vous avoue qu'avec Eric, on avait l'an dernier réfléchi quelques minutes avant de comprendre où est-ce que ce titre allait nous emmener. Et puis à force de réfléchir entre nous, entre collègues en pastoral, à force de le travailler en synode tous ensemble, en lisant notamment l'épître aux Éphésiens. Puis de nouveau en pastorale nationale, eh bien on a finalement compris. On a compris avec cet aboutissement et ce livret, cette série que l'on va vivre ensemble pendant ce mois de mars. Alors, on a compris non seulement le titre, mais aussi l'intérêt de cette réflexion aujourd'hui pour notre union d'église au niveau national, mais aussi pour notre église locale ici à Cannes. Et pour nous guider dans cette réflexion, on nous propose quatre cultes, quatre axes, quatre textes bibliques qui viennent répondre à cette question: comment peut-on vivre en tant qu'union cette église dans le projet de Dieu pour le monde? Et c'est aussi cette réflexion qui va nous accompagner durant ce temps de carême, ce temps de préparation, ce temps de retour vers l'essentiel, vers Dieu, avant de célébrer et de fêter la résurrection du Christ à Pâques. Et donc aujourd'hui et dimanche prochain, avec Eric, c'est un texte de l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4, qui va retenir notre attention. Alors, dans l'idée d'évoquer dans un premier temps aujourd'hui le fait d'être unis en Christ, et puis dans un deuxième temps, dimanche prochain, le fait d'être aussi singulier, le fait d'être aussi nous-mêmes finalement. Nous sommes tous unis à Christ, hein, comme un tout collectif, en tant qu'Église, en tant qu'humanité, mais nous sommes aussi des êtres singuliers, particuliers, personnels, des individus. Et pour ce matin, je vous invite donc à lire les six premiers versets du chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Je vous le demande donc avec insistance. Moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Amen. Voilà ce texte à la fois simple et compliqué, comme beaucoup de textes, vous me direz. Et c'est vrai, et pour essayer de trouver notre chemin là un petit peu entre ce simple et ce compliqué, je propose qu'on essaie de répondre à trois questions que ce texte nous pose, tout en nous apportant aussi, évidemment, ses propres réponses. Alors, une première question, c'est de qui parle-t-on dans ce texte? Il y a d'abord l'auteur de la lettre, probablement l'apôtre Paul, lorsque, à la fin de sa vie, il était à Rome, emprisonné, alors non pas en prison, mais plutôt assigné à résidence, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et de là, il a écrit aux églises d'Éphèse, de Colosse et Philippe, entre autres, évidemment. Et d'ailleurs, ce sont, si vous avez remarqué dans votre lecture, ce sont des lettres qui sont très similaires. Voilà donc un auteur qui a servi le Seigneur, il le dit, hein, le Seigneur que je sers, pendant des années. Et s'il appelle ses lecteurs à l'humilité, soyez toujours humbles, je trouve qu'en tant que lecteur, on peut percevoir de l'humilité chez l'auteur. Parce que son but ici est de parler du Seigneur et non pas de lui-même. Non pas de son service, mais de celui qu'il sert. Et puis ensuite, on parle aussi dans ce texte du Seigneur, justement. Ce Dieu qui appelle, ce Dieu qui donne l'unité, ce Dieu qui est unique, ce Dieu qui donne une espérance, ce Dieu qui est le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous, qui demeure en tous. Et ce Dieu, pour Paul, il est à la fois tout-puissant, il est à la fois le Seigneur de l'univers, et il est à la fois proche de l'être humain, proche de chacune et de chacun d'entre nous. C'est un Dieu qui règne, mais c'est aussi un Père qui donne de l'espérance et qui demeure en tous, comme une façon de dire que l'Esprit Saint habite en nous, ou comme une façon de dire que Dieu, en Jésus-Christ, son Fils, crucifié et ressuscité à Pâques, s'est approché de nous, s'est approché de toi et moi. Enfin, il y a ce « vous » dans le texte. Paul s'adresse à quelqu'un. Et c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce que on peut avoir deux réactions. Soit se sentir concerné par ce « vous », des fois peut-être trop, ou pas assez du coup, et s'exclure. S'exclure parce que c'est pas à nous que la lettre a été écrite. On ne vit pas la même chose que ces gens qui habitaient la ville d'Éphèse il y a presque 2000 ans. Et on peut trouver encore d'autres arguments pour s'exclure. Et pourtant, on a l'impression que tout semble nous attirer, nous inclure à ce « vous ». Parce que qui d'entre nous n'a jamais pensé ou dit qu'il, entre guillemets, hein, supportait littéralement telle ou telle personne, mais que c'était dur. On supporte, mais c'est dur. La vie entre humains, vous le savez bien, la vie à plusieurs, la vie en communauté, en famille, au travail, dans toutes nos relations sociales, eh bien, ça nécessite forcément de rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Et dès qu'il y a relation, ça dépend évidemment si les atomes sont plus ou moins crochus, mais dès qu'il y a relation, il nous faut nous supporter les uns les autres. Il n'y a pas le choix. Alors, ça paraît un peu fataliste, et ça l'est quelque part, mais se supporter les uns les autres, finalement, ce n'est pas autre chose que de faire preuve d'amour. Supporter l'autre, ce n'est pas autre chose que d'aimer l'autre. Et dans l'exhortation que Paul nous donne, c'est peut-être la seule chose qu'on est capable d'un peu mieux faire. Parce que l'humilité, la douceur, la patience, est-ce qu'on a besoin d'en parler ? Est-ce qu'il y a besoin de rappeler qu'on en est loin, qu'on est loin d'être toujours humble, doux et patient? Est-ce qu'il y a besoin de rappeler que l'unité entre nous est si loin quand on observe les jalousies, les convoitises, les violences, les séparations? Alors voilà le casting, si on peut dire. Un auteur qui prend une posture d'humilité, qui se place finalement au même niveau que ses lecteurs, que nous. Il y a des lecteurs que Paul renseigne sur ce merveilleux Dieu, un Dieu si puissant et si proche. Alors, il y a une deuxième question que le texte pose, c'est pourquoi et comment être unis ? Et on l'a vu, hein, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que l'être humain et l'unité, c'est pas trop ça. Et ce serait, je trouve, déjà une belle raison pour être unis en Christ. Ce serait déjà une belle raison pour l'action de Dieu à Pâques. Ce serait déjà une belle raison pour le salut donné par Dieu pour l'être humain que d'arriver à être de nouveau unis. Mais ce n'est pas tout. La première raison de ce besoin d'être unis en Christ, c'est d'abord de pouvoir réunir, on peut ajouter un petit tiret d'union, de pouvoir réunir l'humanité, la création, avec Dieu, son Créateur. Il n'y a pas toujours eu besoin de cette réunion, puisqu'il y avait union. Dieu a créé l'être humain en son image, il l'a créé très bon. Il y a eu unité entre les créatures et le Créateur. Et malheureusement, ces créatures ont voulu devenir elles-mêmes créateurs. Et surtout, eh bien, se passer du seul vrai créateur. Et là, on comprend mieux pourquoi l'auteur s'évertue à rappeler qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul créateur. On y voit même une belle formule trinitaire. Il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, qui est une autre façon d'appeler le Christ. Il y a un seul Dieu, le Père. Et cette réunion, eh bien, elle ne peut que passer par le seul Créateur, le seul Dieu. Ce seul Dieu qui, malgré notre rébellion, la rébellion de l'humanité, s'approche de nous. Il agit par nous, il demeure en nous. Mais ce n'est pas tout. Cette union avec ses créatures, le Créateur l'a toujours voulu. Et c'est une des réalités qu'on reverra, qu'on relira à Pâques. La venue du Christ, son incarnation, n'est pas un plan B, comme on dit. L'incarnation, le fait pour le seul Créateur de devenir semblable à ses créatures, et vous remarquerez que Dieu a fait exactement l'inverse de l'être humain, mais avec succès et avec humilité. Oui, l'incarnation, elle ne dépendait pas de l'être humain, elle ne dépendait pas d'une éventuelle désunion, d'une séparation, d'une rébellion, elle dépendait uniquement de Dieu, du seul Dieu. Et ce qui est absolument incroyable, je trouve, eh bien, c'est de voir que malgré notre rébellion, malgré le fait d'avoir rejeté Dieu, eh bien, Dieu s'est quand même approché de nous. Il s'est quand même incarné. Il est quand même devenu semblable à nous. Et je crois que c'est la plus belle preuve d'amour de Dieu pour nous. Un seul amour pour tous. Pour moi, pour toi. Et ce matin, on est venu ici au temple avec nos, avec nos joies, avec nos peines, avec nos succès et avec nos échecs, avec nos certitudes et aussi avec nos doutes. Et quelle que soit notre situation en ce moment, quelle que soit cette phase de vie dans laquelle nous sommes, eh bien, on est invité à prendre cet amour, à le recevoir gratuitement. Cet amour donné par Dieu, pour nous, pour tous. Alors, il y a une troisième question. Après le pourquoi, le comment, il y a quelle suite, quelles conséquences? Quelles conséquences d'être unis en Christ? Bon, on pourrait facilement en parler des heures, hein, l'unité, l'union à Christ. Vous avez juste à aller en bibliothèque théologique et vous verrez le nombre d'ouvrages, le nombre de livres écrits sur le sujet. Et je propose qu'on se limite à simplement trois conséquences que le texte nous livre dans cette courte exhortation. Soyez toujours humbles, doux et patients. Soyez toujours humbles. Est-ce que c'est pas un peu trop osé de dire? Ou est-ce que c'est pas osé simplement de dire que celui qui dit que c'est toujours possible n'est finalement pas très humble lui-même? Mais avant d'être une qualité, hein, qu'il faudrait toujours avoir en tant que chrétien, pardon, presque des fois perçue comme un requis, eh bien, l'humilité, c'est avant tout une qualité de Dieu. C'est lui qui est toujours humble, parfaitement. Et son incarnation en est la preuve. Et le fait qu'il soit prêt à agir par tous et demeurer en tous, alors qu'il règne sur tous, c'est une autre preuve. Allez demander à ces dirigeants belligérants d'aujourd'hui s'ils sont prêts à agir par tous et à demeurer avec tous. Notre union à Christ, elle nous emmène sur ce chemin d'humilité à sa suite. Soyez toujours doux. Je trouve que c'est tout aussi osé de dire qu'on est toujours la douceur en personne. Mais là aussi, c'est avant tout une qualité de Dieu. C'est lui la douceur en personne. C'est lui dont on le retrouve dans l'Écriture. C'est lui dont le joug, le fardeau qu'il met sur nos épaules est doux et léger. Comme pour dire, de façon ironique, que lui n'en met pas. Il ne met pas de joug sur nos épaules. Il ne nous met pas de fardeau. Il les enlève. Et dans cet effort de maintenir l'unité, comment rester doux? Eh bien, l'apôtre Paul répond en prônant la paix. Parce que c'est la paix qui nous lie en Christ. Et là encore, on peut s'appuyer sur cette parole, sur cette exhortation à la douceur, même dans les conflits les plus compliqués. Alors, on peut penser aux guerres, qui pour nous sont lointaines finalement, mais dans nos familles. Combien la violence y est parfois présente. Combien la douceur peut y être absente. Et c'est pourtant la réponse. La douceur est une réponse à la violence. Soyez toujours patient. Là, c'est peut-être le plus difficile. Je parle peut-être que pour moi. La patience. Qui est plus patient que Dieu lui-même? Lui qui attend toujours de la part de l'être humain une reconnaissance, un retour à lui, un geste d'amour de sa part, un pas de repentance et de paix, un petit peu comme cette parabole du bon samaritain, ce père qui accueille son fils. Mais pour Dieu, c'est encore plus fort parce que il patiente tout en sachant que c'est impossible pour l'homme d'apporter un geste d'amour parfait, de se repentir totalement, de lui être reconnaissant en tout temps. Et malgré tout, malgré nos limites, Dieu est patient. Et la réponse de Dieu à cette patience, ou plutôt à cette impossibilité de patience parfaite de notre part, eh bien c'est l'espérance. Nous ne pouvons pas être patients parfaitement, mais nous pouvons espérer. Nous pouvons croire. Nous pouvons attendre le retour du Christ. Ce retour qui finalement marquera la réunion, toujours avec un tiré, la réunion finale, au sens le plus fort du terme, puisque au lieu d'agir par tous et de demeurer en tous, eh bien, Dieu agira avec tous, il demeurera, il habitera avec tous, avec nous, et pour toujours. Alors j'aimerais vous laisser une question et une affirmation à méditer chez vous pendant ce mois de mars, à méditer chez vous dans les groupes de maison et dans les méditations quotidiennes. La question c'est pourquoi l'auteur parle-t-il d'appel, de corps, d'unité, de foi, de baptême, de se supporter les uns et les autres ? Quels sont les rapports entre ces différentes données? Est-ce que ce ne serait pas l'Église, la vie de l'Église, la vie en Église? Et qu'est-ce que ça peut avoir comme implication pour nous en tant qu'Église? Et puis, une affirmation que je vous laisse. Dieu, ce Dieu d'amour, est celui qui règne sur tous, avec humilité, douceur et patience, tout en étant celui qui demeure, toujours avec humilité, douceur et patience, en nous tous, en toi et moi, même si nous n'avons que trop peu d'humilité, de douceur et de patience. Et que cette parole nous accompagne dans notre quotidien, qu'elle vienne nous consoler, nous entourer, nous encourager, nous relever. Et avec tout ce que nous venons de dire et d'entendre, je vous invite à réécouter la lecture de ce magnifique texte en pensant au Christ, en pensant à son amour pour nous. Je vous le demande donc avec insistance. Moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, que Dieu a appelé. Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humble, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous.